Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes sont au menu de notre débat, à savoir Félix Tshisekedi charge le gouvernement démissionnaire de gérer les affaires courantes. Et dans notre second thème, nous parlerons de la réaction du gouvernement congolais qui dénonce l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur la création de la chaîne de valeur pour les minerais stratégiques et critiques. Pour en parler, je reçois dans cette émission Alain Botoko, journaliste photographe indépendant, patron du média en ligne info-verte.net. Alain Botoko, bonsoir.
Bonsoir aux millions d'auditeurs de la radio Okapi, radio de la paix qui nous suivent ce soir et qui vont nous suivre demain matin.
Pascal Kambala, journaliste à la radio Biwan, émettant depuis Kinshasa. Pascal Kambala, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et depuis Beni, John Kanyunu, journaliste et correspondant de La Voix de l'Allemagne de Chevel, au Nord Kivu. John Kanyunu, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs des radios Okapi.
À Matadi au Congo central, vous nous suivez sur la 102.0 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine. Comme à l'accoutumée, vous avez chacun une minute pour commenter une actualité de votre choix. On va commencer par vous, John Kanyunu. Vous intervenez depuis Beni, je l'ai dit, au Nord Kivu. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans ce coin de la République?
Oui, ce qui fait l'actualité, c'est toujours les massacres perpétrés par le groupe terroriste des ADF dans les périphéries du territoire de Beni. Pas moins d'une semaine, il y a eu 15 morts et plusieurs capturés par ces ADF. Et malheureusement, ça se passe sous la barbe des opérations conjointes FARDC UPDF, qui est l'armée ougandaise. Et de l'autre côté des saquets, il y a eu des échauffourées la nuit de jeudi à vendredi, à ce vendredi. On a parlé même d'une bombe larguée sur la cité de Sake et qui a fait 3 morts et quelques blessés. Voilà un peu ce qui s'est passé ici. Mais il y a aussi le notable encore, Patrick Mundeke, qui a aidé, qui a réuni des bâches, 500 bâches aux déplacés des guerres des Sake qui sont vers Boulengo. Et voilà un peu ce qui se passe dans cette région à Goma et à Beni.
Pascal Kambala, journaliste à la radio Biwan, émettant depuis Kinshasa, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Moi, je vais parler de cette, disons, sur le marché d'échange où les dollars américains continuent à dominer les francs congolais. Il est vraiment, à l'heure actuelle, un dollar, c'est 2700. Donc, il est impérieux que la Banque centrale puisse restaurer, donner aux francs congolais ses propriétés, ses fonctions monétaires. Il est anormal que, sur le marché d'échange, cette situation frappe aussi le pouvoir d'achat des Congolais. Les gens n'arrivent pas à accéder aux biens et services, donc il est urgent. Je pense qu'il y a des moyens, il y a des actions à mener urgentement pour que le franc congolais retrouve sa valeur au niveau des marchés d'échange.
Alain Botoko, journaliste, photographe indépendant, patron du média en ligne info-verte.net.
Oui, Kelly, moi je voudrais dénoncer un peu ce que je venais de vivre cet après-midi, mais aussi des millions de Kinois le vivent. C'est le manque de mobilité dans la ville de Kinshasa, et on appelle communément ici les embouteillages. Mais ça ne va plus, parce que vous pouvez pas faire dans un boulevard de 7 kilomètres, vous faites 1 heure, 2 heures du temps, c'est quand même invivable quand même. Et vous savez, à travers le monde, c'est la mobilité qui est le premier élément dans la gestion de ville. Et quand vous voulez gérer une ville, il faut savoir que la ville, c'est là où le gens se trouvent dans un même endroit, en millions, en dizaines de milliers. Et il faut organiser la circulation de ces hommes, de ces femmes. La ville de Kinshasa a un plan directeur pour la mobilité que les Japonais ont élaboré et les études ont été faites. C'est autour de 30 milliards de dollars pour 20 ans. Qu'attend le gouverneur de Kinshasa avec les contributions des Kinois qu'il donne chaque jour, chaque mois pour pouvoir mettre ce plan en pratique? Et ça, c'est une urgence, il faut le faire et nos autorités doivent s'y prendre et il faut travailler. C'est de l'intelligence, on a plein de Congolais qui connaissent ça, mais il faut appliquer, il faut le faire. On n'a pas de choix, sinon on va disparaître tous.
Premier thème de ce soir, le Premier ministre Sama Lukonde a déposé mardi 20 février à Kinshasa sa démission auprès du président de la République, Félix Tshisekedi. Le chef du gouvernement a ainsi opté pour l'Assemblée nationale conformément aux prescrits de l'article 108 de la Constitution qui exige aux élus de choisir entre leurs fonctions actuelles et le mandat électif. Quelques heures avant, certains membres de son équipe ont aussi déposé leur démission pour occuper leur siège à la Chambre basse du Parlement. Après avoir pris acte de cette démission, le président de la République a chargé le Premier ministre d'expédier des affaires courantes. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et son équipe gouvernementale vont donc continuer à gérer le pays, mais sans avoir le plein pouvoir, ajoute le communiqué de la présidence. Michel Kifinda nous en dit plus.
Autorisé à expédier les affaires courantes, le gouvernement démissionnaire est soumis à un certain nombre de restrictions. Il s'agit notamment de la suspension jusqu'à nouvel ordre des recrutements, nominations, promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux. Les engagements, les liquidations et les paiements de toutes dépenses publiques, autres que celles liées aux charges du personnel, sont aussi suspendues. Notez aussi la suspension des missions de service à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement et le personnel de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques dont les demandes d'autorisation seront examinées au cas par cas. Le président de la République interdit par ailleurs au gouvernement démissionnaire de recourir aux opérations de cession, de transfert ou aliénation des actifs de l'État, autres que celles déjà engagées. Toutefois, des cas exceptionnels nécessitant une dérogation seront soumises à l'autorisation préalable du président de la République, précise ce communiqué signé par le directeur du cabinet du chef de l'État, Guylain Nyembo.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, motive sa décision par la situation particulière que traverse la RDC et par la nécessité de gérer les affaires au pays en attendant la formation du nouveau gouvernement. Pascal Kembala, journaliste à la radio Biwan, émettant depuis Kinshasa. Alors, cette décision du président de la République est très controversée au sein de l'opinion. Une certaine opinion où certains Congolais estiment que le chef de l'État a violé intentionnellement la Constitution et d'autres pensent que cette décision est justifiée.
Non, en fait, politiquement, cette décision est justifiée. Vous ne pouvez pas comprendre le fait que le Premier ministre ait déposé sa démission et que tout le gouvernement tombe et qui va le remplacer. Donc, il y a des affaires courantes à gérer. Donc, quand on parle des affaires courantes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est assimilé il faut prendre des mesures nécessaires pour assurer la continuité des services publics. Mais lorsqu'il y a gestion des affaires courantes, il y a des actes, des dispositions que le gouvernement est limité à poser, telles que les mesures prises. Le gouvernement ne peut pas engager la République à l'ère actuelle. Donc, nous devons comprendre cela. Et aussi, les fonctions des membres du gouvernement, comme le dit, le dispose de l'article 96 de la Constitution, les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif. Et pousser le cumul de mandats ou le cumul de candidatures, parlons de cumul de mandats, c'est immoral à l'ère actuelle. Nous devions comprendre que c'est arriver à demander le gouvernement la gestion en attendant que le prochain gouvernement soit nommé, les membres du gouvernement soient choisis. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, ce type de décision, des décisions politiques. Mais si les gens, comme nous sommes dans un débat...
décision politique, mais qui viole la Constitution. Alors que le Conseil d'État avait clairement déjà tranché sur la question.
Oui, c'est-à-dire que ici, nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, lorsqu'une décision ou bien un acte est pris par le chef de l'État, on peut attaquer cet acte-là devant les cours des tribunaux. Donc, soyons vraiment dans un état de droit, parce que si nous fonctionnons dans des déclarations politiques, alors que les déclarations politiques ne sont pas des requêtes devant les cours et tribunaux, là on ne saura pas bien comprendre. Donc la démarche à faire, il faudra arriver à attaquer cette décision prise par le chef de l'État devant le Conseil d'État et entendre la décision de la Cour. Mais moi j'estime que la gestion, le gouvernement doit s'occuper des affaires urgentes, c'est la gestion des affaires courantes. Et c'est, selon un juge français, le juge administratif a assimilé la gestion des affaires courantes aux mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'État. C'est juste pour que l'État ne s'arrête pas. L'État doit continuer. Donc on ne doit pas... Et aujourd'hui, prenons les cas. Tous les membres du gouvernement démissionnent. Et démissionnent et partent. On laisse la République entre les mains des secrétaires généraux. Si tel est le cas, on devait opter. Ce sont des options à prendre, mais j'estime que, étant dans un état de droit, s'il y a des actes posés, pris par le chef de l'État ou par n'importe quelle institution, les cours et tribunaux sont là pour trancher.
Alain Botoko, votre point de vue par rapport à ce débat hein, au sein de l'opinion, Samalou Kondé devrait-il rester à la tête du gouvernement pour expédier les affaires courantes ou il doit aller siéger à l'Assemblée nationale hein?
Très cher Kelly, quand vous lisez l'introduction de notre constitution, vous allez comprendre que elle est faite, c'est vraiment le pacte social. Elle a été faite pour l'unité nationale, pour la cohésion, pour la justice, pour la paix, et mais aussi incite à tous les dirigeants, à tous les responsables à pratiquer vraiment la justice. Cette question est en train de faire couler de l'encre, mais aussi les salives dans tous les salons à Kinshasa, mais aussi dans tout le pays, et aussi dans le monde. Mais moi, j'ai plutôt... je commence plutôt par nous rappeler tous Congolais que le mandat c'est pour 5 ans. Et les 5 ans, il n'y a pas un jour de plus ou un jour de moins. Mais aussi nous rappeler que le temps, c'est l'ennemi le plus fort de l'homme. Si on ne le gère pas comme il se doit et si on ne suit pas ce qu'il faut. En rappelant cela, je voudrais quand même rentrer dans le texte qui nous colle dans la peau, qui est le pacte social. Quand vous lisez l'article 108 de la Constitution, son alinéa 1, il commence par là où il faut commencer. Il dit que le député ne peut pas combiner sa fonction avec le sénateur. Vous voyez, et ils font presque le même travail. Et on dit, vous ne pouvez pas combiner ça. Et on dit ça, on dit, bon, il ne peut pas être membre du gouvernement, il ne peut pas être membre de des entreprises publiques, il ne peut pas être membre des autres institutions, il ne peut pas être membre du cabinet du président de la République. Et alors je me dis, nous devons respecter nos textes. Ça c'est le combat le plus fort que tout le père fondateur de ce pays ont initié. Et moi je crois que le président Félix est fils d'un des pères fondateurs de ce pays que nous avons suivi, qui est notre maître tous, hein, qui nous a formés pour être efficaces dans les questions politiques, dans les questions de la gestion du pays. Et moi, je crois que il est si intelligent et je pense que ça va pas durer. Il y aura un gouvernement qui va sortir dans la semaine ou les 2 semaines qui vont suivre et les choses vont rentrer dans la normale parce que un député ne peut pas être en même temps ministre et ça ne colle pas assez. Et moi je crois fermement pour un État fort au milieu de l'Afrique, comme dit notre constitution, et qui respecte tout le droit et qui respecte les institutions. Une institution qui fait la force d'un pays, le président ne cesse de le répéter, c'est la justice. La Cour constitutionnelle s'est prononcée, la Cour d'État s'est prononcée et elles ont toutes dites qu'il n'y a pas cumul de fonctions. Et moi, je crois qu'il faut qu'on observe cela. En dépit de tout ce que nous avons comme situation difficile, et je suis sûr que ces membres du gouvernement doivent aussi être interpellés. Ils doivent comprendre que le chef de l'État, c'est un humain. Mais aussi son cabinet, c'est aussi un cabinet composé d'humains. Et moi, je dirais même que le directeur de cabinet du président devrait démissionner dès la première semaine, parce que nous sommes dans un autre mandat. Et il faut un directeur de cabinet qui voit les choses pour une gestion durable dans les 5 ans qui arrivent. On n'a pas du temps à perdre, le nuit, le jour. J'étais en Ouganda, je finis par là. Et une dame me dit, il vendait jusqu'à 24 heures. Je leur pose la question, ils disent, mais pourquoi vous vendez jusqu'à 24 heures? Ils disent, nous sommes en retard. Par rapport à qui? Par rapport aux Français, par rapport aux Américains, par rapport aux Suisses, aux Russes. Alors, il faut qu'on travaille et qu'on travaille dire le jour et la nuit. Nous n'avons pas droit à l'erreur.
John Kanyunyu, journaliste et correspondant de La Voix de l'Allemagne, dont je vais aller voilà, au nord Kivu. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de Félix Tshisekedi?
Oui, moi je pense que le président de la République est conscient que sa décision fâche la loi, fâche la Constitution. Il en est conscient. Je l'ai suivi hier dans le briefing, chaque fois organisé par le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Une question lui a été posée dans ce sens, et j'ai senti dans lui une sorte de frustration par rapport à cette décision là. Lui-même a dit qu'il n'aime pas beaucoup parler justice, parler droit. Il se sent à l'aise dans des questions de développement et autres. Et moi, je me pose une question. Pourquoi les Congolais s'attardent sur cette décision du chef de l'État? Parce que moi, personnellement, je suis convaincu que notre Constitution a été mise en veilleuse depuis décembre 2020. Et vous allez vous poser la question pourquoi je dis ça. La réponse est simple. Depuis décembre 2020, nous avons vu une majorité basculer pendant un mandat qui était à court. Alors je me dis, pourquoi les Congolais doivent se poser des questions sur est-ce que la Constitution a été violée, est-ce que les lois ont été violées, alors que, à mon avis, excuse-moi, c'est le cas depuis décembre 2020. Et donc, comme le président l'a su lui-même dit hier, il dit bientôt, peut-être ce week-end, l'informateur va lui faire rapport, et que juste après, peut-être lundi, il y aura un formateur qui sera nommé et qui pourra peut-être devenir premier ministre, je pense. Mais je pense ceci. Le président de la République, je ne veux pas lire dans sa tête, dans son intérieur, mais je pense que avec l'expérience du projet 100 jours, avec son ancien directeur de cabinet Vital Kamerhe, le projet qui a fait couler beaucoup d'encre et salive, je pense que le président de la République ne voulait pas refaire cette expérience, revenir sur cette expérience qui a de toutes les façons mis le pays, qui a sué, entre guillemets, l'image du pays. Je pense que peut-être c'est par rapport à ça qu'il a pris cette décision, et lui-même a eu à l'expliciter hier, parce qu'il a dit, plus question ou pas question, que les ministres qui seront retenus à leur poste ministériel ne vont pas toucher deux émoluments à la fois. Donc, ils ne vont pas toucher l'argent au gouvernement et ils ne vont pas toucher l'argent à l'Assemblée nationale. Et lui-même l'a dit, bon, comme c'est le magistrat suprême, bon, sa parole, je pense que vaut une loi. Il a dit, les premiers suppléants vont prendre place à l'Assemblée. Ils seront en train d'échauffer les chaises pendant que les élus, qui sont encore ministres, seront en train d'expédier les affaires courantes. Mais je pense que la justification sur la guerre
de l'Est... Mais ces suppléants ne vont pas travailler gratuitement. Ils auront quelque chose à la fin du mois.
Ils seront payés par l'Assemblée nationale. Parce que
cet argent-là... Va aller dans les poches, ils vont se partager avec les ministres qui sont dans les gouvernements.
Mais bien sûr que oui, souvent il y a toujours des consensus. On dit, bon, vous allez 50-50. Vous prenez 50%, je prends 50%. Et puis bon, ça sera leur arrangement à l'amiable, j'ai comme l'impression. Mais je pense que le président de la République a été prudent par rapport à ça. Mais je disais que la situation de l'Est, la guerre de l'Est, ne peut pas être pris pour alibi ou pour argument pour violer la Constitution. Il y a l'état-major général qui est là, il y a le ministre de la Défense, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui n'était pas élu, qui n'était pas candidat à la députation nationale, si ma mémoire ne me trahit pas, qui peut faire l'affaire avec avec la guerre. Bon, le ministre des Budgets était élu dans le Sud Kivu. Bon, peut-être avec celui-là, mais de toute façon, il y a toujours un mécanisme prévu par la Constitution pour gérer tout ça. Et le président lui-même a dit, ils n'ont pas le droit de prendre de grandes décisions. Quelles grandes décisions? Comme nous sommes en guerre, les grandes décisions, c'est peut-être le dégaissement de l'argent ou des moyens pour envoyer au front. Des grandes décisions, c'est aller peut-être signer certains accords avec le dialogue ou les concertations qui auront lieu entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, entre guillemets, le gouvernement congolais et peut-être certains délégués de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, qui vient apparemment d'avaler le M23, peut-être tout ça, mais c'est aussi des grandes décisions qui engagent toute une nation et normalement qui doivent être prises par le gouvernement légitime, le gouvernement légal, pas par des membres du gouvernement qui expédient les affaires courantes. Moi je pense que les juristes, bon non, pas les juristes, les magistrats à tous les niveaux peuvent voir comment rectifier ce que le président de la République a pris comme décision, mais malheureusement, le magistrat suprême lui-même, le magistrat suprême nous a dit hier que notre justice était malade. Alors, je ne sais pas sur qui la population peut compter pour essayer de faire respecter notre loi mère, notre Bible de la République, qui est la Constitution de 2006.
Pascal Kambala Bamanaï.
Madame, il y a ceci. Lorsque vous êtes peut-être, je prends le cas d'une situation administrative, vous êtes nommé à de hautes fonctions. Pendant ce temps-là, que faites-vous? Vous engagez encore la même direction? Vous gérez les affaires courantes, non? En attendant que vous soyez remplacé. Le problème, c'est quoi? Il ne faudra pas qu'on arrive à politiser. Vous savez, il y a des us pratiques qui accompagnent la Constitution. C'est-à-dire que lorsque le Premier ministre dépose sa démission, pendant ce temps-là, il y a des dossiers qui doivent être gérés. J'ai dit que le gouvernement doit s'occuper des affaires urgentes. C'est ça, la gestion des affaires courantes. Donc, aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est le cumul de mandats. Vous savez, en RDC, nous avons plus de 80% de jeunes, donc de chômage de masse. Il est immoral de voir dans un pays où il y a des chômeurs en masse, qui est la classe politique préférée à accepter le cumul de mandats ou le cumul de candidatures multiples. Donc, nous devons travailler, la classe politique doit travailler à privilégier. Je vous donne un cas de figure. Il y a des candidats qui, j'ai été candidat président, candidat député national, candidat député provincial, il a été aussi candidat sénatorial, il sera candidat sénatorial. Vous trouvez ça normal? Alors, dans un pays où il y a beaucoup des gens dans le chômage. Donc, nous disons que c'est un acte politique. Vous savez, la Constitution, c'est juste, c'est la légalité. Mais à côté de la légalité, il y a des pratiques qu'il faut accepter, des pratiques non écrites qui sont là, qui accompagnent la Constitution, mais qui ne vont pas violer la Constitution. Si vous estimez que telle décision prise par le chef de l'État est en contradiction avec l'économie générale de la Constitution, vous avez le droit de saisir le Conseil d'État, parce que si c'est un acte administratif pris par le chef de l'État. Donc c'est dans ce sens-là. Donc, moi j'estime que c'est une décision politique qui accompagne cette transition, on peut dire cette transition, en attendant que le prochain gouvernement soit installé. C'est là aussi le problème. Ça, c'est pour nous les députés qui sont déjà là, d'avoir les lacunes par rapport à notre constitution. Vous savez, c'est une constitution, on peut modifier notre constitution pour combler quelques lacunes qui qu'on constate dans la pratique lorsque nous devons respecter la constitution. Donc c'est tout à fait normal, je l'ai dit, c'est une décision politique invitant le Premier ministre à assumer, à s'occuper des affaires urgentes ou à la gestion des affaires courantes. C'est cela. Donc l'État ne peut pas mourir, l'État ne s'arrête pas, il faut qu'on continue. Et en continuant, je l'ai dit au début qu'ils sont limités, les actes des dispositions, ils ne peuvent pas poser.
Alain Botoko, réaction.
Oui, Kelly, comme j'ai commencé, comme j'ai introduit, c'est la loi qui va sauver ce pays, c'est la justice qui sauvera ce pays, et restons vraiment dans la loi. Je comprends, le président c'est un homme intelligent, c'est un homme qui anticipe les choses, et moi j'ai toujours admiré sa façon d'anticiper les choses. Il veut comme moi que les choses ne traînent plus, et que au lieu que le gouvernement qui va arriver dans la semaine ou dans le 2 3 4 5 jours qui arrivent, au lieu que il vienne trouver un gouvernement intérimaire, il a dit bon, assumer les choses courantes jusqu'à ce que ce gouvernement
arrive. On espère que dans les 5 jours on aura déjà un premier ministre.
Oui, je fais un article dans notre média info-verte.net. Et j'ai dit que Augustin Kabuya, le formateur qui a réussi mandat du chef de l'État pour lui chercher, en fait, pour localiser, pour constituer la majorité, qui est presque connu parce que l'Union sacrée pour la nation, elle a bâti campagne pour le chef de l'État. Chacun a été élu parce qu'il a mis les effigies du chef de l'État. Donc, le travail ne sera plus très ardent pour lui, et sur les 43 regroupements et partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée, il a déjà réussi une trentaine, et je crois que le 10 ou le 5 qui reste, il pourra le faire dans un jour, et on aura un gouvernement de 23-22 personnes qui commence, et il faut qu'un premier ministre soit là, un homme qui connaît le besoin du peuple congolais, un homme qui ne vient pas pour satisfaire les politiciens, parce que le chef de l'État a une dette, il doit renvoyer la censure auprès de la population qu'il a voté en masse, et que c'est par l'UDPS que la solution viendra pour développer ce pays, pour un changement durable dans ce pays. Et cette occasion, c'est une occasion en or à ne pas louper.
Merci Alain Botoko. Deuxième et dernier thème de ce soir. Le gouvernement congolais a dénoncé mercredi 21 février la signature par l'Union européenne et le Rwanda d'un accord sur la création de la chaîne de valeur pour les minerais stratégiques et critiques. Dans un communiqué signé par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, le gouvernement congolais estime que la signature d'un tel accord avec le Rwanda, dont le sous-sol ne regorge pas de ses minerais, est une façon pour l'Union européenne d'encourager la poursuite du pillage des richesses congolaises par le Rwanda. En réaction, Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, a déclaré jeudi 22 février à Kinshasa, dans une interview exclusive à Radio Capi, que le protocole d'entente signé par le Rwanda et l'Union européenne le 19 février marque la volonté de créer une feuille de route pour étudier et la transparence et la traçabilité de tout commerce des minerais stratégiques. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Ce protocole d'entente, ce qui signifie, c'est marque la volonté de créer une feuille de route pour étudier les sujets qui sont en discussion autour de cet intérêt général. Et dans ce sens, même si on peut comprendre que peut-être l'opportunité de signer ce protocole d'entente n'était pas bien respectée, mais nous sommes confiants qu'à travers ce qui est protocole d'entente qui parle beaucoup sur la due diligence, c'est-à-dire la transparence et la traçabilité de tout commerce qui puisse se faire autour des minerais stratégiques, je pense que ça va pouvoir nous aider, pas seulement dans la région, mais aussi d'une manière plus générale aussi pour tout ce qu'il s'agit des commerces illicites des minerais stratégiques.
John Kanyunyu, je rappelle que vous êtes journaliste et correspondant de la Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, au Nord Kivu. Cette dénonciation du gouvernement congolais est-elle justifiée?
En tout cas, je ne pense vraiment pas
Le gouvernement congolais n'avait pas besoin de s'indigner, le gouvernement congolais n'avait pas besoin de réagir de la sorte, parce que, à mon avis, c'est quand même, acceptons-le, c'est quand même une sorte de moquerie, bien que le Rwanda regorge certains minéraux aussi. J'ai eu à discuter, on a eu un échange autour de ça dans un forum, WhatsApp, Habari Motomoto HMM. On a parlé de ça. Il y a certains amis qui ont même brandi une cartographie de minéraux du Rwanda. Et moi, je pense que c'est vrai. Le gros vient de chez nous, de la RDC. Et avant de rentrer dans cette émission, j'ai lu quelque part où Vincent Karega, l'ancien ou l'ambassadeur expulsé, l'ambassadeur du Rwanda expulsé dernièrement de Kinshasa, parlait de leurs minéraux. Mais il a dit aussi qu'ils en achètent aussi, hein, qu'ils font aussi ce qu'on appelle la réexportation. Donc, pour moi, le gouvernement congolais ferait œuvre utile en construisant son armée, en dotant ce pays d'une armée forte et dissuasive pour garder, que ça soit une chaîne du pays, pour que les voisins qui regardent nos minéraux de mauvais œil n'aient pas l'occasion d'y accéder. Moi, je pense que la vraie réaction serait celle-là. Mais tout ce que nous avons entendu, il y a le président de la République qui a dit ça ne va pas s'arrêter au niveau des dénonciations, on va en arriver à la justice. Mais bon, je ne sais pas qu'est-ce que nous irons faire là-bas. Moi, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir une diplomatie forte, une politique forte, mais aussi une armée forte et dissuasive pour que ces voisins que nous prenons pour voleurs de nos minéraux n'aient plus accès à ces derniers. Mais se plaindre ça et là, à mon avis, ne nous arrange pas. Par contre, ça risque de nous ridiculiser prochainement. Je pense que le gouvernement doit utiliser cet accord signé entre l'Union européenne et le gouvernement rwandais pour se redonner une nouvelle énergie, se taper le poing sur la table et dire ça doit cesser et nous devons protéger nos minéraux, nous devons protéger nos populations pour que les investisseurs viennent auprès de nous, viennent chez nous, puiser à la source et non passer par des intermédiaires. C'était ça vraiment la vraie colère et non continuer à se lamenter alors que les autres seraient entrés de se moquer de nous. Je pense que le gouvernement va se ressaisir pour essayer de voir d'un bon œil ce qu'il doit faire pour éviter des critiques inutiles dont on n'en a pas besoin actuellement. Ce dont la population a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir un gouvernement fort, des hommes politiques forts qui puissent vraiment garder le pays, qui puissent vraiment garder nos minéraux et que ces minéraux-là profitent à tous les Congolais et non à une poignée d'individus, hommes politiques soient-ils, pour se passer pour les tubes digestifs de tous les Congolais, alors que notre Constitution nous autorise d'en profiter tous de ces minéraux. Voilà un peu, je pense que le gouvernement va se ressaisir et puis couper là où ça fera très mal pour que les investisseurs comprennent qu'ils ont besoin de nous et non de courtiers. Voilà.
Alain Botoko, journaliste photographe indépendant, patron du média en ligne info-verte.net, tout en reconnaissant la souveraineté des partis signataires, le gouvernement de la RDC dénonce ce protocole qui, à l'évidence, encourage le pillage des ressources naturelles congolaises par le Rwanda. C'est sorti de la bouche du VPM Christophe Lutundula. Alors, de son côté, l'Union européenne parle plus des diligences, c'est-à-dire de transparence, traçabilité de tout commerce qui puisse se faire autour des minerais stratégiques.
Oui, madame, je voulais d'abord corriger ce que John a dit. J'ai eu l'occasion de circuler les Rwanda en 2007-2008. Maintenant, je peux plus le faire parce que je suis fiché par mes déclarations. Je peux plus jamais arriver au Rwanda de Kagame aujourd'hui. Et je vous dis, je peux vous rassurer que il n'y a pas de rivière là-bas, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas le minerai. Moi, je suis chimiste aussi, hein, depuis que je suis environnementaliste. Donc, le minerai ont des types d'environnement qui sont liés à eux. Je reviens à la question que vous posez. Vous savez, ce sont des rapports de force à travers le monde et en politique et dans la gestion internationale, dans la coopération. Nous devons comprendre que c'est vrai, nous avons passé du moment trop punitif dans le passé. Hein. On n'a pas investi énormément dans notre pays, dans tout le secteur. Je l'ai dit, dans les institutions, mais aussi dans nos lois, dans ce qu'il faut. Et le Rwanda joue à ça depuis longtemps. Il joue à, il cherche là où nous sommes faibles pour pouvoir chercher à nous arracher l'essentiel. Il connaît que nos lois sous le mine exige beaucoup et il a fait des lois justement pour attirer les investisseurs autour dans son pays pour faire entrer des devises. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que notre pays est au centre des enjeux internationaux aujourd'hui. Aucun pays au monde ne peut survivre sans minerai, parce que c'est dans le minerai que vous avez le cuivre pour faire circuler l'énergie, c'est dans le minerai que vous avez qu'on fait sortir les appareils pour des communications, toutes sortes de communications aussi pour les enjeux qu'il faut déplacer dans les airs ou dans d'autres planètes ou dans d'autres satellite. Donc, et le Congo est très très important au monde. Et beaucoup de pays ont trouvé cet alibi là, chercher à voler le Congo, à esquiver le Congo pour aller prendre ailleurs, parce que là, on le propose dans le petit prix ou dans le prix vilain.
Mais les Congolais devraient se poser aussi la question de savoir pourquoi l'Union européenne a préféré aller signer ces protocoles avec le Rwanda plutôt qu'avec la RDC.
Oui, mais vous savez, moi je crois fermement que c'est l'ère du Congo. Vous savez, ces choses allaient se passer dans l'ombre s'il n'y avait pas des réseaux sociaux, si le monde n'était plus connecté comme il l'est aujourd'hui. Et je crois que c'est à notre avantage maintenant. La dernière émission, j'avais dénoncé l'hypocrisie que le monde entier est en train de manifester face à la République démocratique du Congo. Nous sommes victimes de cette hypocrisie, mais aussi il faut comprendre que Kagame dans ses intentions, mais aussi dans sa logique d'imposer les situations difficiles au Congo, a initié beaucoup d'institutions, a mis beaucoup de personnes à travers le monde dans beaucoup d'institutions pour pouvoir parler mal du Congo, pour dire au Congo personne ne peut arriver, au Congo c'est la guerre, à l'Est personne ne peut arriver, alors venez chez moi parce que chez moi j'ai tout ce que le Congo a, et c'est dans ces conditions là que tous les partenaires soient en train d'agir dans ce sens. Et moi je suis plutôt pour des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant, il faut que nous, Congolais, nous prenions nos responsabilités. Le peu d'argent que nous avons, canalisons, mettons pour faire des infrastructures utiles pour attirer les gens. Faisons des lois utiles pour attirer les investisseurs. Faisons tout pour que nos minéraux soient sécurisés. Je l'ai toujours dit, je le répète, avec le changement climatique qui est synonyme de pauvreté, de beaucoup de catastrophes, le monde va ruer vers le Congo et nous devons former une armée, une forte armée. Et les gens me disent toujours, vous parlez d'un million d'armées, mais l'Égypte en a autant, les États-Unis, la Chine, mais c'est aussi une machine de production incommensurable à travers le monde. L'armée peut travailler, peut avoir des industries. Ils suivent l'ordre. S'ils ont des industries de production agricole ou de poisson ou quoi, donc les choses vont marcher, tout le monde va manger, tout le monde sera à l'aise. Et moi, je crois qu'il faut 1 million de jeunes gens qui sécurisent nos frontières pour ne pas laisser la place aux autres, mais aussi mettons des infrastructures qu'il faut, mettons des lois qui attirent les gens et faisons tout pour dire le pays, le Congo est vivable, mais dans le respect de la loi.
Pascal Kambala, journaliste à la radio Biwan, émettant depuis Kinshasa. Le gouvernement congolais dit attendre des explications des autorités de l'Union européenne sur ce comportement qu'il juge ambigu, alors qu'elle ne cesse d'affirmer leur volonté de contribuer à la fin de la crise dans la partie est de la RDC, ainsi que l'exploitation illicite de ses richesses naturelles.
Oui, en fait, il revient au gouvernement à déposer des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ces protocoles. Mais j'aimerais signaler que depuis le 3 septembre 2020, l'Union européenne avait présenté sa stratégie pour renforcer, au mieux, contrôler son approvisionnement en une trentaine de minerais jugés critiques. Et la Commission aura besoin de 18 fois plus de lithium et 5 fois plus de cobalt d'ici 2030 pour tenir ses objectifs climatiques. Ce qui est curieux, quand vous lisez les communiqués de l'Union européenne dit ceci. Le Rwanda est un acteur majeur au niveau mondial dans le secteur de l'extraction de tantale. Alors que la grande majorité des tantales, 70 à 80% de la production mondiale, provient de la RDC. C'est la RDC qui produit plus de tantale au niveau mondial. Mais l'Union européenne dit que au niveau mondial, dans le secteur de l'extraction, le Rwanda est un acteur majeur. Et les communiqués poursuivent, il produit également l'étain, les tungstènes, de l'or, niobium, dispose des réserves de lithium, des terres rares. En outre, l'Union européenne, dans ce communiqué, dit, déclare, grâce à l'état de droit, l'Union européenne considère qu'au Rwanda, il y a un état de droit. Vous savez, j'ai analysé, j'ai relu les communiqués de l'Union européenne, je me suis dit, mais nous sommes en face des balles de chauve. Nous sommes en face des balles de chauve. C'est un coming out politique, on peut aller jusque-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Même quand vous lisez, madame, vous pouvez aller dans Google. C'est une recherche simple. Quand vous tapez, quelle est la richesse du Rwanda? On vous dit, l'économie rwandaise est centrée d'une part sur la culture vivrière, du sorgho, haricots, bananes, et d'autre part sur des cultures d'exportation du thé, les cafés. Les cafés représentent à lui seul environ 60 à 80% des recettes d'exportation. D'où viennent les minéraux qu'on retrouve au Rwanda? C'est ça la vraie question. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si l'Union européenne vient, comme on dit à l'Ingala, qu'on pénalise ce moto entre les deux États. Alors que nous avons besoin de la paix dans la partie est du pays. On tue les gens. Il y a des déplacés internes. Et pourquoi l'Union européenne ne travaille pas activement pour qu'il y ait la paix dans la partie est du pays? Tous ces mamans, tous ces jeunes, des papas qui ont abandonné leur village, qui ne vont plus dans le marché. Donc c'est vraiment ahurissant, c'est vraiment mais j'ai apprécié la position du chef de l'État. Il a dit les voies diplomatiques seront utilisées et les voies juridictionnelles seront utilisées pour voir comment ils vont exploiter et comment le protocole sera exécuté. Parce que qu'est-ce qui se passe au fond dans l'opinion, hein? Le Rwanda n'est pas cité comme un pays minier dans le monde. C'est le Congo qui est un scandale géologique, un scandale. Le Congo possède des minéraux. Vous voyez, quand on parle de tantale, le tantale sert à quoi? Aux turbines des moteurs d'avion, turbines à gaz, les réacteurs nucléaires, même l'industrie exposée à des hautes températures. Donc aujourd'hui, l'Union européenne trouve que le Rwanda, c'est un allié d'État par rapport à la RDC. Tout à fait, c'est la position de l'Union européenne. Mais il faudra nous dire, le Congo est victime non seulement d'agressions et de pillages de ces minéraux. Où vont les minéraux de la RDC? Qui achète? Qui prend ces minéraux? Et ça va dans quel pays? C'est ça le vrai problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on comprend mieux que l'Union européenne accepte que le Congo soit pillé? Accepte que le Congo soit pillé? Parce qu'on ne peut pas comprendre une institution qui vient signer des protocoles d'accord avec un pays qui n'a pas ces minéraux-là. Les lithium, le Rwanda n'a pas les lithium. J'ai appris que le 29 janvier 2024, un accord entre Rio Tinto et le Rwanda a été signé pour l'exploitation et l'exploration du lithium dans la province occidentale du Rwanda. Mais ils doivent mener des recherches. Ils doivent mener des recherches pour voir si le Rwanda a les lithium dans la province occidentale. C'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux au niveau même de la diplomatie. Comment présenter un pays le Rwanda que détenant de minerais. Mais ça fait rire beaucoup de gens.
Et, mais vous nous avez envoyé sur Google, Pascal. Google dit ceci, les principales ressources naturelles du Rwanda sont l'étain, le tantal, les saphirs, l'or, le café et l'agriculture.
Actualisé, madame. C'est actualisé, et l'Union européenne suit ça, cette actualité. Mais quand vous lisez Google, quand vous lisez les informations, depuis avant la guerre, les Rwandais ne produisaient que le thé et le café.
Alors, on va laisser Pascal finir son idée.
Madame, moi je pense qu'on doit privilégier la paix. Je l'ai dit dernièrement, il faut combien de litres de sang pour que la guerre cesse dans la partie est du pays. L'Union européenne ferait mieux de privilégier la paix. Ils en ont les moyens. L'Union européenne, j'ai suivi un député belge critiquer le gouvernement belge, l'inaction du gouvernement belge. Et aujourd'hui, on assiste à cette inaction de l'Union européenne. Pourquoi ne pas travailler, privilégier la paix dans cette partie est du pays? Les gens profitent. Les gens profitent. Vous savez, la guerre, quand il y a la guerre, il y a beaucoup de gens qui profitent. Hein. Il y a les mafieux qui sont là. Qui ne sait pas qu'il y a des mafieux dans la partie est du pays? Où vont les minerais exploités par le M23?
Alors, il faut conclure, Pascal.
Quelle est la destination? Oui, j'ai conclu pour dire que nous, la RDC, en tant que Congolais, nous privilégions la paix. L'Union européenne devait travailler pour trouver qu'il y ait la paix dans la partie est du pays. L'Union africaine, l'ONU, devions travailler pour qu'il y ait la paix dans la partie est du pays. Ça n'est assez, il faut que la partie est du pays retrouve la paix. Ça ne sert à rien de continuer à susciter, à produire des protocoles d'accord qui vont encore envenimer les situations. Il faut privilégier la paix. Et puis, pour qu'il y ait des négociations entre les États, comment on peut bénéficier, comment on peut travailler dans cette politique gagnant-gagnant. C'est tout. On ne doit pas arriver à susciter et à produire des protocoles qui vont pousser des gens à penser d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, j'estime que l'Union européenne devait travailler d'arrache-pied pour aider les Congolais, aider la RDC à avoir la paix dans la partie.
Merci, Pascal Kambala. John Kanyounyon, 30 secondes. Votre conclusion.
Je pense que nous devons être seulement sérieux et honnêtes. Nous devons avoir la culture de respecter nos engagements vis-à-vis des tierces. Et nous devons nous mettre en tête que nous avons des richesses que d'autres envient et que nous devons être conséquents. Nous devons nous construire. Nous devons construire une forte armée. Je me répète. Nous devons avoir des grands hommes politiques qui puissent nous défendre. Mais dire que nous devons chaque fois nous lamenter. En tout cas, on n'aura pas de solution. Et les investisseurs iront chez les gens qu'ils trouvent sérieux pendant que nous on sera en train de se lamenter. Que nos dirigeants soient sérieux pour nous faire respecter. Voilà en gros ce que je peux dire par rapport à ça. Et si cela est fait, en tout cas, on n'aura plus besoin de se lamenter.
Alain Botoko.
Madame, on doit éviter les erreurs du passé, mais aussi l'exemple est palpable, celui de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud révise son code minier tous les deux ans, et on fait on travaille. Les Américains disent la vie appartient aux fatigués. Il faut travailler. Il faut que l'homme congolais, le politique congolais, l'intellectuel congolais, le privé congolais apprenne à travailler et on sera respecté par le monde.
Merci, chers confrères, d'avoir pris part à ce débat. Prenez soin de vous et bon week-end.